Je ne suis pas un homme extravagant. Pourtant, ce matin, je crois que je viens de recevoir, je ne vais pas employer de grands mots parce qu'il faut faire attention. Attention à l'inflation des mots. Il y a des gens qui ne savent pas quoi dire, alors ils n'ont pas de grands mots. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, tout à coup, voilà, pour toi, une parole de Dieu, tout à coup. Ça te rappelle quoi, tout à coup? Ça ne vous rappelle pas, tout à coup, deux choses. Dites-le-moi, oui, la Pentecôte, et puis, Alpha, Oméga, tout à coup, on sera au ciel. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pense que quelqu'un est intéressé par ça. Saisis le tout à coup de Dieu. Amen. C'est tout. Je lirai avec vous dans l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir, ne serait-ce que dans au temps chronologique, et il est logique, c'est vrai. C'est logique d'attendre. Amen. Ce qu'on sème, on le récolte. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Après, le reste, c'est Dieu qui le sait. N'en ajoutons pas. C'est les dons spirituels, je ne vais pas démarrer là-dessus, mais c'est court. C'est une parole de Dieu, une. C'est tout. Alors, nous lirons dans l'Ancien Testament, dans la vie de David. Il y a beaucoup de choses dans la vie de David. Alors, je vais essayer de le dire ce matin. Je ne serai pas trop long, j'espère. Il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Ça suffit, hein. Le Saint-Esprit est capable de nous faire comprendre ce que ça veut dire. À trop expliquer, on n'explique rien. La Bible n'est pas une explication, mais une proclamation. Alors, 1 Chronique, chapitre 13. 2 Chroniques, pardon. Non, 1 Chronique, excusez-moi. 1 Chronique, chapitre 13, verset 1er. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes, où sont les banlieues afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül, que je sache 20 ans. » David assembla tout Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de l'Amath pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. David, tout Israël, avec tout Israël, monta à Baala, Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter l'arche de Dieu du nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales avec des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche de Dieu, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza, tel châtiment. Ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Eretz Uza. Après avoir irrité, il a dit, David eut peur. C'est pas pareil. Il a réfléchi. Il a peur de Dieu en ce jour et il dit, comment ferais-je entrer chez moi à l'arche de Dieu ? David ne retira pas l'arche chez lui. dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. 3 mois. Ça faisait 20 ans qu'elle était partie. Lui, 3 mois. L'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Amen. David est un homme qui a su tirer les leçons de ce qui lui est advenu dans sa marche avec Dieu. Contrairement à Saül. Saül, bien des fois, nous le voyons dans la misère. Il dit « je veux me repentir ». Et puis, il continue ses bêtises, de plus en plus. À un certain moment, il dit qu'il ne fallait pas consulter les morts. Mais lui, il l'a fait. C'est un drôle de chrétien, lui, de plus en plus. Je crois que c'est là une des différences entre ces deux hommes. Un homme selon le cœur de Dieu, qui a su se repentir et qui a marché dans l'obéissance. Par contre, l'autre s'est repenti du bout de lèvres et il n'a pas marché avec Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de la vie de David, ici, des questions, vous avez remarqué avec moi, il y a un projet, il y a un besoin, l'arche de l'Éternel. Et vous avez remarqué avec moi que David, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il est roi maintenant. Il y a des obligations dues à la royauté qu'il n'avait pas lorsqu'il n'était que le petit berger qui s'occupait du troupeau de son père ou qui est venu pour vaincre le grand Goliath, quoique Dieu était avec lui. Mais là, vous avez remarqué ce qu'il a fait ? Il a dit ceci au peuple, à ces gens religieux qui étaient là, chefs de milliers, chefs des centaines, des hommes qui étaient certainement des hommes de Dieu, mais il leur demande conseil. Et remarquez-le, il dit d'abord, si vous le trouvez bien, bon, et si cela vient de l'Éternel. Vous avez remarqué le changement de direction, du moins d'ordre ? D'abord les hommes, et après Dieu. Est-ce que c'était ça vraiment David ? Non, hein ? Lorsque David était jeune, d'abord l'Éternel. Un jour, il va voir ses frères. Pendant la bataille avec Goliath, il demande conseil, il s'est fait ramasser. Hein ? Tu me dis ça, mais j'irai voir un autre. Il consultait d'abord l'Éternel. Combien de fois dans cette guerre contre Saül, par conséquent contre les Philistins, combien de fois n'a-t-il pas consulté l'Éternel ? Ah, quelquefois, des hommes de valeur, comme Abishaï, comme Joab, voulaient lui donner des conseils. Vous le savez, à un certain moment, il est dans la caverne de, je ne me rappelle plus le nom, Adulam, non, ce n'est pas celle-là, peu importe. Hein. Mais là, il dit à Abishaï, il lui dit, ça y est, Dieu livre entre des mains ton ennemi. Il dit, non. Ah, il marche avec Dieu. Vous savez, les conseils, hier, ne font pas l'épée hier. Mais Dieu a toujours vécu. Béni David. David était l'homme qui, selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qui avait un cœur à cœur avec Dieu. Parce que la voix, la parole écrite à l'époque, elle était minus. Hein. Si elle existait, je ne crois pas. Mais il y en a un qui existe, c'est le Saint-Esprit. Et je vous avoue ce matin que j'ai senti quelque chose. C'est rare. Je crois qu'à 53 ans, je crois que c'est la première fois que je le fais. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Mais j'aimerais que quelqu'un me dise quelque chose. Ça m'encouragerait. Ça m'est arrivé, ça, il n'y a pas longtemps, remarqué. Mais ce n'est plus la même chose. Bon, je laisse ça de côté. Donc, Dieu a vaincu, a donné à Saül lorsque Saül vraiment, à David, pardon, lorsqu'il s'est occupé de son cœur à cœur avec Dieu, et dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la difficulté, d'abord il consultait l'Éternel. Vous avez remarqué ça? Et chaque fois, il a été vainqueur. Amen. Il a compté sur Dieu. Le conseil des hommes, il n'a pas souvent écouté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter le conseil des hommes, mais d'abord Dieu. Quelqu'un a dit, Messire, Dieu, premier servi. Bon, pas besoin de prendre de tels arguments pour nous en convaincre. Il n'y a qu'à avoir vécu avec le Seigneur. Voilà. Alors, maintenant, David, eh bien, ce n'est plus le petit David. Il est roi. Et il y a en Israël un problème. C'est qu'il y a besoin d'aller chercher l'arche de l'Éternel. Vous savez, l'arche de l'Éternel, c'était dans la loi. Cet endroit, entre les chérubins, n'est-ce pas? Vous connaissez ce texte, l'arche de l'Éternel qui siège entre les chérubins, n'est-ce pas? C'est quelque chose de sacré. Et c'était là que le peuple d'Israël invoquait Dieu. C'était l'endroit. C'était la loi. Mais David, il n'est plus tout à fait sous la loi. Il n'est pas encore dans la grâce. Mais à certains moments, il a connu la loi et la grâce. Alléluia. Et nous voyons là qu'il a à cœur de retrouver l'arche de Dieu. Il a à cœur parce que ça fait 20 ans que... Il a couru, il a vu la main de Dieu bien des fois. Mon frère, ma sœur, c'est précieux, l'intimité avec Dieu. Oui ou non? Nous avons déjà fait des dizaines d'expériences lorsque devant un problème, nous ne voulions pas le conseil du pasteur. Nous ne voulions pas le conseil d'un chrétien. Nous ne voulions pas le conseil d'autres qui sont toujours prêts à en donner. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à donner des conseils. Tiens, Dieu m'a dit de te dire. Dieu n'a pas besoin des autres pour faire ses commissions. Alors vous allez dire, il ne faut pas écouter la maman, il ne faut pas écouter le pasteur. Si, mais le premier Dieu, s'il vous plaît. Combien de fois vous avez parlé d'étudiants? Moi aussi j'étais étudiant quelques années avant vous, ma sœur. Vous savez, ce n'était pas toujours rose, c'est vrai. Ce n'était pas toujours... Hein? Mais Dieu intervenait, amen. Même au début du ministère, oh là là, nous avions des salaires de misère. Bon, c'était bien, hein? Mais Dieu intervenait, amen. On ne faisait pas connaître nos besoins. Dans la prière, comme disait un jour à Marseille, un frère est donné la pointure aussi. Alors, quelqu'un lui a donné un paire de souliers, il a dit, Dieu m'a béni. C'est un peu pour rire, mais c'était rigolo, mais enfin, pas trop quand même. Mais Dieu est intervenu bien des fois. Pourquoi? Parce que nous avons un cœur à cœur avec lui. Vous vous rappelez de cette époque? Elle a existé pour tout le monde. Ça, c'est comme des fiançailles. C'est merveilleux. Et après, encore plus. Et encore. Encore mieux. Amen. Il faut un peu d'huile, hein, du Saint-Esprit. Mais j'aime bien... À David. C'est ce qu'il a fait, David. Hein. Il a dit, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, en deuxième, alors, il a donné des arguments. Il a dit, nous ne sommes pas occupés. Alors, toute l'Assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable, parut à tout le peuple. Toute l'Assemblée, Vox Populi, tout le monde me dit que. Et si Dieu te disait non? Et si Dieu avait un mot à dire? Est-ce que nous serions capables de l'écouter? Oui, mes frères, toute l'Église est d'accord pour que je fasse ceci, fasse ça. Voyez, Dieu m'a révélé. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire. Mais des fois, on se rêvait tout court. Hein, on se voit, mais alors que, au nom de l'affiche, alors que c'est en bas que Dieu nous veut.
dans l'humilité et quelquefois dans l'humiliation, parce que malheureusement, un peu de satisfaction, de prétention. Non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, David, il semble qu'il a précipité. Et vous savez, la précipitation, c'est jamais bon. Mon frère, ma sœur, si tu es engagé dans un chemin sentimental ou autre chose, va doucement, consulte Dieu et surtout ne lui impose pas cette personne ou ceci en disant « moi, c'est ce que je veux et je prie pour que Dieu me dise Amen ». Mais ça, c'est nul et non avenu. Vous savez, Dieu, quelquefois, nous dit quelque chose dans l'intimité, mais 6 mois après, il peut nous dire autre chose, parce que la situation a changé. Soyons souples, ayons le cerveau souple. Vous savez que le cerveau est souple ? Mais des fois, c'est là que c'est dur. Hein, on a décidé, on veut, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, elle, lui, il me ceci, cela, je ne rentre pas dans les détails. Enfin, voilà, c'est arrivé alors. Ils ont mis ça, bien sûr, rapidement. Ils ont mis un char tout neuf, un beau costume, une belle veste, un beau chant, n'est-ce pas ? Ça prépare des rencontres, et puis que sais-je encore ? Hein ? Et les gens qui conduisaient, c'était des gens qui avaient de la force. Usa, Agjo, ils avaient de la force, ils avaient de la fraternité. Et il y a des gens comme ça, peut-être, dans certaines assemblées, pas ici, je ne vous connais pas assez, qui ont de l'influence, n'est-ce pas vrai ? Oui, mais tel frère m'a dit que, il connaît le Seigneur depuis tant d'années, il m'a vu avec, dans ses rêves, bon, on n'avait plus rien à dire, enfin, j'insiste pas parce que je ne veux pas trop prendre mon temps, votre temps, mais vous avez remarqué, lorsqu'ils sont arrivés à l'ère de Kidon, l'arche de l'Éternel a commencé à pencher. Et pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'elle risquait ? Parce qu'il a confié l'arche à des bœufs. Mais ce n'était pas aux bœufs, c'était à lui, aux portiers, aux gens que Dieu avait choisis. Là, ils l'ont porté. Et à un moment, l'arche, elle a failli tomber. Et là, ils ont mis la main. Un homme a mis la main. Vous savez, quand on met sa main dans l'œuvre de Dieu, c'était écrit dans la loi de Moïse, c'est dangereux. Et il a été frappé. Vous savez, quelquefois, il est arrivé que de nos projets, de nos idées, de notre volonté, ça disparaisse, ça fonde comme une chose. Ça m'est jamais arrivé ? Moi, ça m'est arrivé. Et je bénis le Seigneur que l'état d'esprit de David, eh bien, je l'ai eu un petit peu. Ça m'a fait du bien là où l'ennemi voulait me faire du mal. Sachons plier, amen, comme le roseau qui plie, mais ne rompt pas, amen. Oui, ainsi David, eh bien, a vu cette colère de Dieu. La colère de Dieu s'est déchaînée. Vous allez me dire, Dieu est en colère de l'Ancien Testament. Seulement dans le Nouveau, Paul dit, Dieu ne nous a pas destiné la colère. Alors, il ne faut pas s'arranger avec la Bible. La Bible est souple, mais dans le sens qu'elle est compréhensible. Mais quand c'est blanc, c'est noir. Alors, blanc, c'est blanc. Ainsi, vous avez remarqué, David a été irrité. Ça l'a énervé. Mais c'était un homme sensible. Et je crois que pour tirer les leçons de notre vie avec Dieu, comprendre, mais ça n'est pas retomber toujours dans les mêmes errances, comme faisait Saül. Saül, au lieu de faire mieux, il faisait pire. Vous avez remarqué ça ? Jusqu'à vouloir tuer David. Mais Dieu l'a gardé, et c'est lui qui est mort. Hein ? Vous savez, des gens qui menacent de mort, hein ? Mais Dieu nous protège. Il est là. Ainsi, David a eu peur, et puis il s'est séparé de l'arche. 3 mois, dans la maison d'Obed-Edom. Et Dieu a béni Obed-Edom. Amen. D'ailleurs, on va voir la suite. Alors, ils en sont là. Ils en sont là dans ce moment difficile. David est découragé, mais 3 mois après, Vous savez, il y a des épreuves dans la vie qui durent un peu. Hein. Et je crois que ce n'est pas à coup de baguette magique, ce n'est pas à coup de dons spirituels, il faut le temps. Une plaie, ça ne se guérit pas du jour au lendemain. Il faut le temps. Il faut laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos cœurs. Il n'est pas pressé. Il travaille pour l'éternité. Laissons-le. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des méthodes à l'emporte-pièce. Et tu devrais confesser que, et tu devrais dire que, et si, et tu devrais aller là, tu verrais là-bas, il y a des... Moi, ça m'a jamais touché, et aujourd'hui encore de moins en moins, parce qu'il y en a de plus en plus. Des gens qui ont des recettes. Mais il n'y a pas de recette avec Dieu. David, il est resté 3 mois. Et il a vu de ses yeux et appris que là où était l'arche, quand on a le cœur honnête et droit, là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a là où il y a l'arche de Dieu, la présence de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction de Dieu ? La bénédiction de Dieu, ce n'est pas de voir tous nos Saül vaincus, tous nos Philistins vaincus, mais c'est que nous fassions la volonté de Dieu. Souvent, nous avons beaucoup de foi pour que Dieu règle nos comptes, nos affaires. Pas vrai ? Mais en ce qui concerne la façon de faire, du moins ces bonnes œuvres qu'il a préparées, je trouve que nous avons moins de zèle. Et pourtant, il en faudrait plus. Parce que nous ne servons pas nous-mêmes, ne nous servons pas de Dieu, mais servons-le. C'est pas pareil. C'est même le contraire. Peu de gens qui se servent de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Alors que c'est Dieu que nous devons servir. Alors, les choses vont s'arranger, gloire à Dieu. J'insiste pas plus. Et j'aime ces paroles. Bénis la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Il a d'abord béni la maison d'Obed-Edom, Obed-Edom lui-même. Et ce qu'il faut, c'est que nous soyons bénis, nous, une source de bénédiction, et pas seulement ce que nous avons, ce que nous faisons, et ceci et cela. Alors, on continue. Voilà, j'essaie d'être un peu plus rapide. Mais lisez avec moi, cette fois, au chapitre 16, chapitre, non, 15 de ce livre, de 1 Chronique, 1 Chronique 15, verset 11. David appela les sacrificateurs, Tsadok et Abiatar, et les Lévites, Uriel, Asaja, Joël, Semaéja, Eliel, Aminadab. Ce n'est pas les mêmes gens que tout à l'heure. C'est des serviteurs de Dieu, ça, des sacrificateurs. Il dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée, l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Il y a de la réflexion, là. Hein. Il a préparé une place. Vous avez des gens qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas préparé leur cœur. Alors, le Saint-Esprit vient tout à coup, mais quand c'est tout à coup, on est surpris. Hein ? Préparons nos cœurs à le recevoir. Tout à coup, la Pentecôte, ils étaient prêts, Jésus leur avait dit. Tout à coup, non pas tout à coup de nous, tout à coup de lui, parce que Dieu agit quand il veut, et non pas quand nous voulons. Ce n'est pas la même chose, c'est le détail qui fait la différence. C'était l'ennemi qui s'y glissait, mais quelquefois vient Dieu nous vient nous voir. Et alors, il est écrit donc, se sont préparés et... Au verset 13, David dit, « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous avons cherché d'après nous, d'après le peuple, d'après ce qu'on nous a dit. » Ça vous est jamais arrivé, ça ? Qu'on vous dit, vous savez, pour être baptisé de l'Esprit, eh bien, il faut parler, et puis l'Esprit continue. Nous ne bâtissons pas avec de la paille, du foin et du chaume. Sinon, ça fait du foin. Mais ça fait du chaume à la fin. Et on est des chômeurs de l'Évangile, un jeu de mots. Mais là, maintenant, c'est du solide. David a réfléchi pendant 3 mois. Ce n'est plus le même homme. L'épreuve l'a servi. Et maintenant, eh bien, les choses vont se passer différemment. Et alors, au verset 14, le sacrificateur de 1 Chronique 15, verset 14, les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent. Ah, tout à l'heure, il n'était pas question de ça. Tiens, pour faire monter l'arche de l'Éternel. Amen. C'est l'arche qui monte. C'est pas le bonhomme. C'est pas David. Non. Alors, les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, instruments de musique, etc., etc. Verset 17. Et les Lévites disposèrent, Éman, fils de Joël, etc. Je passe quelques versets. Et ils ont continué, hein, verset 19, 20, 21, 22. Et au verset 22, Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Vous voyez, ces gens qui ont servi Uzza et Akzo ont été mis comme ça, dans la précipitation. Tu veux faire pasteur? Oui, mais vas-y. Frères et sœurs, on ne sert pas Dieu comme ça. Hein? C'est sérieux l'évangile. Et malheureusement, ces personnes, je ne jette pas la pierre, je les plains, qui ont bâti n'importe comment, d'après leur volonté, leur moi, leur désir, ils ont fait beaucoup de mal et ils se sont fait du mal. Ainsi, Dieu avait préparé. Alléluia. Regardez, au verset 23, c'est écrit. Et c'est encore écrit au verset 24, Obed, Edom et Jéchija étaient portiers de l'Éternel, de l'arche, frères et sœurs, pour porter les choses de Dieu. C'est sérieux. Ce n'est pas avec des gens, j'allais dire, presque inconvertis. On confie aujourd'hui dans certains endroits des responsabilités à des gens qui ont été baptisés, mais ils ne sont pas convertis. Vous voyez ce que ça peut faire, hein? Bon, je n'insiste pas. Mais verset 26. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance et l'on sacrifia sept taureaux. Amen. Avec l'assistance de Dieu. Ça ne vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres? Il y avait l'assistance du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il ne fait pas de bruit. Gloire à Dieu pour une certaine prière que j'ai entendue. J'écoute. Lorsque surtout on sent, c'est pas le mot, on entend le son de l'Esprit, si je puis dire. Et vous-même, vous l'avez entendu ce matin. Et vous l'entendrez encore, que Dieu soit béni. Et alors, le pauvre David, il s'est fait mettre en boîte. Hein, par qui? Par sa propre femme. Regardez, au verset 29, 1 Chronique 15, 29, hein? Comme l'arche de l'Alliance entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardant par la fenêtre et voyant le roi David danser et sauter, elle le méprisa dans son cœur. Vous savez que la femme de David, Michal, c'était la fille de Saül. Et qu'entre Saül et David, enfin, il y a bien longtemps que le pauvre Saül est décédé. Mais David est toujours là. Et David, il a su tirer les leçons. Vous avez compris? Et je suis arrivé à me faire comprendre, sans trop de paroles, bien qu'il en faut. Hein? Sachant tirer les leçons. Sa femme l'a méprisé. Oh. 2 Samuel nous dit un détail qu'on va lire pour terminer. 2 Samuel, le même texte. Mais il y a un truc qui éclaire davantage. 2 Samuel, alors au chapitre. Oui, chapitre 26, verset 21, c'est le même texte, mais le détail donné. David répondit. Alors, 2 Samuel 6, 21, David répondit à Michal : c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Pon! Alléluia. Il tire les leçons. Il ne dit pas ça par orgueil. Il dit ça parce que c'est Dieu qui l'a fait. Faisons attention à notre orgueil, c'est vrai. Et il dit encore à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, m'abaisser à mes propres yeux. Quel homme ! On retrouve un peu le caractère de Paul. On retrouve aussi l'agneau qui est là déjà. Néanmoins, je serai en honneur avec des servantes dont tu parles. Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Vous allez me dire, est-ce que c'est le même Dieu qu'on a aujourd'hui ? Ben oui. On ne dit pas n'importe quoi dans certains domaines. Que Dieu nous aide à tirer les leçons. Et David, il est revenu à ce qu'il était. Maintenant, il n'a plus besoin de demander à Pierre, à Paul, à Jacques, à Guillaume. Il n'a plus besoin de demander à celui-ci, celui-là, parce qu'alors on ne sait plus où on en est. Oh, je répète, non pas que le conseil des uns et des autres ne soit pas, surtout lorsque c'est des enfants de Dieu, fidèles, qui ont fait leur preuve, hein, ou de notre papa, maman, copain, bien sûr, convertis. Bien sûr, il faut savoir écouter. Mais ne nous trompons pas, mettons Dieu en premier. Si nous voulons qu'il nous honore ce que nous faisons ainsi, eh bien David a fait des progrès, a grandi et il a pu porter du fruit. Il a su tirer les leçons de la difficulté qu'il a eue. Vous savez comme on dit des fois, c'est un mal pour un bien. Il semble que toute épreuve soit le sujet d'une tristesse et non de joie, mais il paraît plus tard pour celui qui a été ainsi exercé un fruit paisible de justice. Que Dieu soit béni. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te bénir parce que ta parole est d'une richesse incontestable et incontestée. C'est elle qui nous dirige. C'est vrai, Seigneur, qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde tellement difficile. Le chemin est étroit. Nous qui te servons, nous voulons marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'humilité. Et nous sommes dans un monde qui fait appel à l'orgueil, au plaisir, à la chair. Seigneur, tout cela est crucifié. Jésus vit en nous. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je te prie ce matin de bénir l'Église de la Mosson, bénir le pasteur, sa famille et chacun des frères et sœurs. Accorder ta grâce aux jeunes et moins jeunes. Merci notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu bénisse.